Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en direct ou en podcast régulièrement le vendredi. Je vous propose une émission consacrée aux loisirs et à la maison. Et pour ce deuxième numéro, nous verrons ce qu'il faut planter dans son jardin ou sur son balcon alors que les premiers froids arrivent. Le spécialiste Philippe Collignon nous aidera à faire les bons choix. Coup de projecteur sur deux fruits de saison, la châtaigne et la poire, avec la journaliste Nathalie Hellal. Vous apprendrez notamment à faire la différence entre un marron d'Inde et une châtaigne. Sandrine Mercier, fondatrice de l'excellent magazine voyageur AR, nous amènera dans le Puy-de-Dôme, à Bruges, mais également aux Seychelles. Et puis nous recevrons Justine Janin, qui publie Green Addiction. Nous verrons avec elle que les plantes d'intérieur décorent admirablement un appartement et qu'il n'est point besoin d'avoir la main verte pour végétaliser son intérieur. N'hésitez pas à poser vos questions à nos experts au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bienvenue à la Dame du Vendredi et à son esprit d'escalier. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali. Excusez-moi, j'ai presque encore un petit peu la bouche pleine, j'ai des miettes de gâteau. Ce studio, le vendredi, on dirait une kermesse d'école. Tout le monde apporte son gâteau. Je suis désolée, j'ai oublié de faire un cake.
Guillemette Odissino qui rentre du festival de Deauville. Guillemette aussi à l'aise en robe du soir qu'en salopette pour biner dans son jardin. Ça, c'est tout vous.
C'est un résumé absolument magnifique. Enfin, biner. Ça dépend si la terre est très dure ou pas.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bienvenue à nos experts. Bonjour Philippe Collignon.
Bonjour Ali.
Professeur d'horticulture de formation, chroniqueur dans Télématin sur France 2. Vous avez notamment publié Simplissime, le livre de jardinage le plus facile du monde chez Hachette Loisirs. Bonjour Nathalie Hellal.
Bonjour Ali.
Journaliste chroniqueuse à Histoire Magazine. Vous publiez ces jours-ci un nouveau livre consacré au chocolat. C'est chez
Albin Michel.
Sandrine Mercier, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous avez longtemps travaillé sur France Inter et vous avez cofondé le magazine voyageur AR comme aller-retour avec un numéro en kiosque consacré aux îles, hein, c'est bien ça ?
C'est pas de bêtises. Presque végétal, hein, y a un cocotier qui fait la... C'est végétal aussi. Oui.
Et bonjour aussi Justine Janin.
Bonjour Ali.
Bienvenue. Vous venez de publier un livre que Guillemette Odissino m'a piqué, qui s'appelle Green Addiction, et c'est publié chez Ulmer. Alors Sandrine Mercier, on commence avec vous. Dans l'actualité du voyage, on a appris évidemment la faillite historique de l'agence Thomas Cook, créée au 19e siècle. Le géant britannique du tourisme qui doit en ce moment rapatrier 650 000 touristes à travers le monde. Thomas Cook qui emploie, je crois, 22 000 personnes dans le monde. Comment vous expliquez-vous, la grande spécialiste du voyage, cette faillite retentissante? Qu'est-ce qu'a raté Thomas Cook?
Alors c'est vrai que vous disiez que c'était un opérateur historique, plus de 150 ans. Et la petite histoire, c'est qu'au départ, il avait emmené quelques hommes qui avaient un méchant penchant sur la bouteille. Et il les avait emmenés en sortant de la ville pour aller se mettre au vert quelques jours dans la campagne anglaise. Et il a commencé comme ça, donc il y a plus de 150 ans. Et après, il a commencé à organiser des voyages. On a dit organisé, justement. Il a emmené plusieurs personnes se balader dans la campagne anglaise. Et après, il a vraiment évolué avec son temps, puisqu'il a acheté des hôtels, il a acheté une compagnie aérienne, et donc ça a grossi tout, juste pour en arriver aujourd'hui, avec 20 millions de voyageurs par an. Donc c'est vraiment un très, très gros opérateur. Je pense qu'il a raté un virage, d'abord. Il est resté sur une offre très classique. Il n'a pas su tenir compte de la concurrence, de Airbnb, le fait qu'on achète maintenant sur Internet. Il a vraiment développé son réseau d'agences. Et ça reste... Au bout du compte, un voyage assez classique, vous achetez ou votre vol sec, ou vous achetez votre package pour une semaine avec un hôtel. C'est pas beaucoup sur mesure, c'est pas très à la demande. Ça manque le côté un peu expérience de ce que cherchent les voyageurs aujourd'hui. Oui, Guillemette.
Ah non,
Guillemette, Odissino, qui lève le doigt.
Ah oui, je lève le doigt, hein, on est à la kermesse, donc j'ai levé le doigt. Mais non, ce que je me demandais, c'est justement aujourd'hui, les agences de voyage, c'est pas en train de péricliter avec tous les gens qui achètent leur voyage sur Internet. Est-ce que ça marche encore, les ces agences
spécialisées peut-être.
Exactement, elles sont en train de se réformer aussi pour avoir vraiment une vraie offre de conseils, c'est-à-dire les choses que vous ne trouvez pas facilement sur Internet, comme une offre, un vol pas cher, basique, une offre simple pour louer un hôtel. C'est vrai que c'est pas, vous n'allez pas le faire dans une agence. Mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous avez un budget, 2000, 3000, et vous dites, bah, tiens, j'aimerais bien aller dans ce pays, mais faire quelque chose qui me ressemble, alors là, une agence a vraiment toute sa valeur ajoutée.
Philippe Collignon.
Moi, je crois que c'est le monde du voyage, carrément, qui est à refaire. Regardez, il y a même les compagnies aériennes qui déposent le bilan, il y a pas longtemps.
Avec l'Azur, XL Airways.
Il y a pas mal de compagnies. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un revirement de situation? Est-ce que le pas cher aussi n'est pas aussi en danger?
Bah, c'est-à-dire qu'à force de faire pas cher, peut-être aussi pour Thomas Cook, ils ont évolué quand même avec une dette énorme. Ils avaient presque 2 milliards de dettes. C'est complètement abyssal. Ils étaient dans un système, effectivement, qui ne fonctionnait plus. Et il y avait aussi le Brexit. Le fait que les banques étaient frileuses, donc les banques ne prêtaient plus. N'ont plus prêté à Thomas Cook. Du coup, c'est l'effondrement du système.
La filiale française, c'est Jettour, c'est ça?
C'est Jettour qui, pour l'instant, est du coup menacée. Enfin, ils cherchent quand même un repreneur. Il y a quand même des gens qui vont se présenter parce qu'il y a quand même un réseau d'agents qui est dense et qui peut être complètement réformé.
Nathalie Elal.
Mais je pense qu'il y a surtout un gap entre effectivement le voyage qu'on peut se faire soi-même sur Internet et puis le voyage en agence qui devient de plus en plus élitiste puisque justement de plus en plus spécialisé, je pense à l'agrotourisme ou à diverses choses, ça devient vraiment très haut de gamme, très élitiste. Donc il y a finalement, je dirais, le voyage à deux, voire trois vitesses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sandrine.
Bah, c'est vrai que chacun veut un peu son voyage à la carte. Maintenant, on n'a plus envie de voyager comme tout le monde. Donc c'est vrai qu'Internet, pour ça, c'est génial. Parce que le truc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça prend du temps sur Internet. Quand vous commencez à vous plonger dedans, vous y passez vos soirées. Alors que si vous allez voir un agent de voyage, effectivement, si vous gagnez un peu d'argent avec un agent de voyage, ça va beaucoup plus vite. Il va vous faire toutes les réservations.
Mais c'est un peu le plaisir aussi, hein. De naviguer, de commencer par naviguer sur son divan, de naviguer sur Internet en cherchant ceci, en ouvrant des photos, en s'imaginant des destinations, en fait. C'est un début de voyage. Comme avant, on ouvrait des cartes, on ouvrait des guides. Maintenant, on ouvre son ordinateur et on se met à rêver. C'est vrai qu'on met 3 mois à choisir, mais ça participe du plaisir.
Oui, puis il y a aussi une belle arnaque, quand même, qu'il faut peut-être signaler avec le voyage sur Internet. C'est-à-dire, vous regardez un billet d'avion aller-retour pour telle ou telle destination, par exemple, le mardi soir 19h, bon, vous prenez pas parce que vous avez envie de réfléchir, vous retrouvez la même destination, le même voyagiste, etc. Le lendemain, ça a augmenté de 100 euros.
Faut pas prendre le même ordinateur, en fait.
Exactement.
Et ça, c'est important parce que vous êtes pisté sur l'ordinateur.
C'est ça.
Mais il y a aussi, cette année, on a vu beaucoup, cet été, des gens qui se sont fait arnaquer en choisissant leur voyage par Internet, leur B&B par Internet, notamment, je crois que c'est au Portugal, où les gens ont vu que c'était un chantier en cours.
Sandrine, donc, ils se sont retrouvés.
On n'est pas à la merci d'arnaque. Quand vous êtes sur Internet, c'est vrai qu'il y a plus de garanties, plus d'assurance quand vous passez avec un agent de voyage.
C'est
et là,
ça.
Par exemple, pour Thomas Cook, si vous faites partie des 600 000 personnes à rapatrier, si vous avez pris, par exemple, juste un vol sec, vous ne serez sûrement pas remboursé. Mais aujourd'hui, si vous êtes français, si vous avez réservé un package, donc avec un hôtel par Thomas Cook, là, par contre, vous pourrez être remboursé parce qu'il y a tout un système de garantie qui va se mettre en place.
Alors, je ne suis pas sûr que Thomas Cook proposait des voyages dans le Puy de Dôme, mais vous nous amenez, Sandrine Mercier, dans ce département auvergnat. Pourquoi aller dans le Puy de Dôme, autour de Clermont-Ferrand, un week-end d'octobre?
Parce que la campagne est magnifique, parce que c'est vert et que ça va prendre les teintes d'automne, et que bah, y a pas que du saucisson, y a pas que des pneus non plus.
Il y a des lentilles.
Y a des lentilles, au Puy-en-Velay, mais partout, hein, partout dans cette région. Et il y a des volcans surtout, il y a des volcans. Ouais. Alors on va pas les voir en éruption, mais on peut déjà monter sur le Puy de Dôme, si vous connaissez cette région. Quand on est à Clermont, on se déplace un peu, on prend un petit train panoramique pour monter. C'est vraiment un totem, hein, c'est à 1467 mètres. Et de là, alors on peut descendre à pied sur les sentiers, mais on peut voler aussi en parapente biplace. Je sais pas si vous l'avez
déjà. Non, moi j'ai juste grimpé et descendu à pied, mais pas...
Ce qui est magnifique en le faisant en parapente, on voit vraiment toute cette chaîne des puits. On voit les 80 petits volcans, c'est comme des petits seins, comme ça, mais vraiment tout en ligne, à la queue leu-leu. Et ils ont été patrimoine mondial de l'UNESCO l'année dernière avec la faille de Limagne. Et là, on voit vraiment la naissance de la Terre, comment ça s'est composé, comment c'est né. Et donc, c'est vraiment une belle balade à faire. Et alors, on verra bien sûr la cathédrale, hein, avec cette pierre, cette magnifique pierre de lave. On peut la trouver un peu tristouille, mais c'est vraiment une terre de sculpteurs. Et moi, j'avais rencontré Thierry Courtadon.
À Volvic.
Il est à Volvic. Il a exposé aussi un moment, il était au palais royal. Il sculpte là, mais c'est des pièces monumentales. Et il en fait de la dentelle. Il fait même des sortes de pierres qui arrivent presque à rebondir tellement c'est léger. Il a vraiment pas de limite. Il est nos limites avec sa pierre de lave. Et il a son atelier à Volvic. On peut le voir travailler là-bas.
Thierry Courtadon.
Courtadon, c'est son atelier. Il est vraiment internationalement connu. Hein. Il expose dans le monde entier. Il a fait le bibendum de Michelin, d'ailleurs, 4 mètres sur 4 mètres. C'est des pièces énormes, énormes. Il est le seul à faire ça. Alors, ça creuse les balades.
Oui, elle va aller où, Nathalie Elal, hein, qu'est-ce qu'elle va manger,
Nathalie? Moi, je m'intéresse qu'à ça, vous le savez.
Non, mais cela dit, il y avait
une chose. La France n'est qu'un alibi gastronomique.
Exactement. Exactement. Non, il y avait une chose extraordinaire dans cette région, et je ne sais pas si ça existe encore, je ne crois pas. Il y avait des très beaux abricotiers et on faisait des pâtes de fruits, et notamment d'abricots extraordinaires dans la région de Clermont-Ferrand jusqu'au début du XXe siècle. Je pense que ça n'existe plus, mais c'était réputé pour cela.
Alors ça devait être un peu dans le sud, vers Champais, parce que là c'est vraiment la limite. On commence presque à entendre déjà les cigales. Donc j'imagine que ça doit être dans cette région où il devait y avoir des arbres fruitiers avec des abricotiers. Mais plus d'une manière plus courante, dans le massif du Sancy, on peut déguster le Saint-Nectaire.
Ah bah oui.
Ce fameux fromage. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à fournir la demande. Ils en font pas assez. Il y a une centaine de producteurs estampillés AOP avec le Saint-Nectaire très très moelleux. Et moi, j'ai rencontré Nathalie Grandpère. Elle a la clé des champs. Elle a eu le prix du meilleur frometon. C'était en 2018. Et vraiment, il mérite le détour, son fromage. Et alors, elle était prof de SVT. Et elle a marié un agriculteur. Et elle se retrouve fromagère. Et c'est elle qui a eu ce prix. Et donc, elle a aussi une ferme pédagogique.
Qu'on peut visiter.
Et on peut donc la visiter. C'est vraiment tout très très bien organisé. Là, c'est à côté de Besse. Besse qui est aussi une station de ski l'hiver.
Oui. Et pour faire passer le Saint-Nectaire.
Alors, il y a le vin. Il y a du vin.
Alors, il y a la Volvic aussi. Il y a la Volvic.
Je ne savais pas qu'il y avait du vin avant d'y aller, en fait. Il y a du Côte d'Auvergne. Ils ont même eu une AOC Côte d'Auvergne. Alors, c'était vraiment une piquette jusqu'à il y a encore 10 ans. Mais ils sont vraiment montés en gamme. Et il y a le domaine de Miolane avec deux jeunes qui ont repris ce domaine et qui font un vin, ils le définissent comme ça, c'est vraiment un vin volcanique. C'est vraiment très très typique, on trouve cette même terre sur le Vésuve, parce que c'est recouvert de lave, et donc ça crée un vin un peu fumé, un peu minéral.
C'est très riche la roche volcanique, c'est très riche en éléments minéraux aussi.
Donc ça fait vraiment des vins très très typiques, et donc eux, ils se sont mis là, ils ont même une terrasse, et on peut déguster les vins, on a vu comme ça sur tout le pays d'Issoire, c'est vraiment très très beau.
Saint-Nectaire et vin, Guillemette Odissino, ça vous plaît tout ça, hein?
Ah bah écoutez, oui, moi je vote pour, qu'est-ce qu'il faut dire de... Non, j'étais en train de me dire qu'effectivement, enfin, je sais pas si les auditeurs sont pareils que moi, mais maintenant quand on va dîner chez des gens, il y a plus de camembert sur les plateaux de fromage, c'est complètement passé de mode, il y a du Saint-Nectaire partout. Non mais c'est vrai, donc ça m'étonne pas qu'ils soient en rupture de stock.
Mais il faut réserver.
C'est devenu un must, fromage, le Saint-Nectaire. Hein.
Mais c'est crémeux, il faut vraiment le manger à température. Hein. S'il est un peu trop frais, il perd absolument tout son arôme. Il faut qu'il sente vraiment l'étable. Hein. Enfin, c'est dans le nez, il est vraiment fort.
Dernier étable dans le Puy-de-Dôme, on peut aller dormir dans les arbres.
Oui, parce que j'ai rencontré Mélina Tailleur qui a créé l'association L'Arbre Nomade. Et alors, elle, c'est vraiment une... Elle nous balade dans la forêt, elle nous raconte des histoires de forêt, et à un moment, on s'installe dans une clairière, et elle monte des portaledges, vous savez, sur de lits de camp. Qu'elle fait monter dans un arbre, et vous après vous êtes bien harnaché sur une corde, et vous montez tout facilement, et là vous vous allongez, vous dites non,
je m'y vois déjà, moi je m'y vois déjà,
vous allongez
une chenille dans un cocon.
Ouais, c'est
non
ça.
Et on s'allonge là et on reste dans les cimes des arbres.
Mais un joli papillon. Bon, en tout cas, vous nous avez donné
envie. On fait la sieste ou on peut dormir, passer la nuit.
Vous avez donné envie d'aller passer un week-end dans le Puy-de-Dôme, Sandrine Mercier.
Il y a toutes les infos sur auvergne-destination-volcan.com.
Et cette information sera sur notre page Facebook. Allez.
Et dans le prochain AR.
Toutes vos questions sur la préparation de vos plantes de jardin ou de balcon à l'hiver, c'est dans quelques instants avec Philippe Collignon. On parlera également des châtaignes avec Nathalie Elal. Elle a encore choisi un fruit que je n'aime pas. Si, c'est quand même, on parlera de la poire quand même.
Oui, en compensation, Ellie.
Et puis peut-être que Guillemette Odissino nous livrera les secrets de sa blanquette de veau.
Voilà.
Ah bon, peut-être. Soudainement comme ça, c'était
pas...
pas.
Mais ça non, mais attendez. Comme ça. Voilà, peut-être, on verra.
Ah, c'est... Non, on verra. Mais de me piéger sur un tel secret, c'est pas sympa.
Vous êtes pas piégé, vous êtes la reine de la blanquette, on le sait. 0145 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Claire Destacant, Clara Marliot et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et on écoute un titre de 1978. Cette année-là naissait l'acteur Omar Sy et disparaissait Jacques Brel. Belle journée à l'écoute de France Inter. Sinon, vous écoutiez Grease Summer Nights en 1978.
Oui, enfin, j'avais 8 ans, mais je me faisais des couettes, je mettais déjà des pantalons moulants, enfin, évidemment, comme...
Comme aujourd'hui.
J'aime bien Melun, moi. C'est moins surfait que la côte.
Grand bien vous fasse.
Et l'an prochain, vous allez où?
Ah ben, on va faire tout ce qu'on n'a pas pu voir cette année, le nord.
La Belgique, tout ça.
Non, le nord de Melun.
Sur France Inter.
10h24 et je vous propose ce matin une émission consacrée à la maison et aux loisirs. Philippe Collignon, grand spécialiste des jardins et des potagers dans Télématin notamment. Winter is coming, le solstice d'hiver arrive dans environ 2 mois. Le froid va bien sûr se faire ressentir avant. Comment préparer certaines plantes un peu frileuses qui restent dehors et comment on fait pour qu'elles échappent au gel?
Alors déjà, effectivement, ça commence maintenant. Il faut commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire de ces petites frileuses, de ces petites exotiques qu'on a mis sur nos balcons. Il y a pas longtemps, j'ai vu un voisin qui mettait des chefflera, des plantes d'intérieur dehors. Elles ont grillé de froid en deux jours, il y a trois jours. Donc c'est-à-dire que le froid, c'est pas en dessous de 0 degré. Le froid, ça peut commencer à 15 degrés, à 12 degrés, à 8 degrés. Tout dépend de la plante. Donc déjà, il faut nettoyer et puis préparer sa plante. Donc nettoyer avant de les rentrer, il faut couper les feuilles mortes, les fleurs, etc. avant de les hiverner. Donc ça, c'est important. Donc la première chose, c'est ça. La deuxième chose, lorsqu'on a par exemple un bassin, eh bien, il va falloir, pour certaines plantes, notamment les plantes flottantes, comme les jacinthes d'eau, comme les lentilles d'eau, comme les papyrus, qui craignent le froid, eh bien, les rentrer, tout simplement prélever une partie de ces plantes, les stocker dans une petite bassine d'eau, en pleine lumière, pour celle-ci, de manière à ce qu'elles passent l'hiver, et puis vous allez pouvoir remettre ces plantes dans votre bassin à partir du printemps, à partir début avril, mi-avril, ça c'est la première chose.
Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui ont planté des végétaux exotiques en pleine terre? Je pense aux bananiers, aux agapandes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Alors, tout dépend où on les a plantés. Lorsqu'on plante des exotiques en pleine terre et avec une possibilité de gel, ce qui est possible, et cet hiver peut-être va être très, 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 très froid. On le prévoit. C'est un peu comme la crue centennale à Paris. Elle va arriver un jour. Mais en tout cas, cet hiver, ça va être plus froid peut-être que les hivers précédents. Donc, attention. Si vous les avez plantés en plein vent, mauvais choix. Donc c'est pas bon parce que une plante qui est plantée en plein vent et en plein froid, c'est ce qu'elle n'aime pas lorsqu'on est sur une terrasse. Une plante qui est en plein milieu de la terrasse, elle va geler. En revanche, une plante qui est contre un mur, eh bien, va plus résister au froid qu'une plante en plein vent. Donc la première chose à faire, si vous les avez plantées en plein vent, déjà, il faudrait mieux les planter près d'un mur. Seconde chose, on peut les protéger avec des feuilles mortes, vous mettez un grillage autour de la plante, vous les nettoyez, vous les rabattez, c'est-à-dire vous les diminuez un tout petit peu, et vous mettez des feuilles mortes. Évitez peut-être trop les plastiques à bulles, etc. Pourquoi ? Qui ont tendance à étouffer la plante, elle ne respire plus, ça crée une sorte d'amalgame humide, il y a des maladies qui se développent, et au final, la plante, elle meurt. Donc prenez plutôt des voiles d'hivernage, des voiles qui laissent passer la lumière, qui laissent respirer la plante, et puis ne les emmaillotez pas comme une sorte de momie sans s'en occuper tout l'hiver, parce qu'il faut de temps en temps, lorsqu'il fait beau, démailloter un petit peu la plante, qu'elle respire, qu'elle prenne un peu la lumière, évidemment, hors gel, et puis après, vous la remailloter, parce que sinon, eh bien, malheureusement, parfois, la plante, elle dépérit par justement ce côté un petit peu trop humide.
Catherine nous demande que faire de mon olivier sur ma terrasse.
Alors l'olivier sur la terrasse, s'il est jeune, il est plus sensible qu'un vieil olivier. Donc toujours pareil, quand on a un olivier sur la terrasse, on le met contre le mur et on évite de le mettre sur la rambarde. La première chose, on ne va pas le rentrer à l'intérieur. Un olivier, ça supporte pas une température au-delà de 20 degrés et surtout chauffé par des radiateurs électriques ou des radiateurs divers et variés. Donc on le laisse à l'extérieur. On peut protéger surtout déjà la plante gèle par le pot. Donc on protège le pot avec des couvertures, avec des objets qu'on trouve aujourd'hui en jardinerie qui sont assez intéressants à base de liège. Donc on protège le pot et ensuite on protège la ramure avec ce voile d'hivernage.
Justine Janin qui publie Green Addiction, la jungle à la maison.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors ouais, moi je suis assez d'accord sur le chauffage, c'est toujours la petite chose en fait qui pose problème en intérieur. Souvent on a envie de rentrer ses plantes alors qu'elles n'en ont pas besoin. Et le chauffage en hiver, c'est la bête noire des plantes. Hein. Soyons clairs là-dessus. Sur les exotiques, on a une chance, c'est qu'on peut quand même en avoir en intérieur avec le chauffage et trouver des petits moyens pour pallier à ça. Mais sur les plantes qui passent toute l'année en extérieur, juste les rentrer en hiver, c'est juste
par exemple, si vous rentrez des agrumes, par exemple, qui ont passé l'été dehors, et vous rentrez les agrumes à l'intérieur, les feuilles vont se dessécher, les fruits vont tomber, ils vont sécher, parce qu'il y a trop, il n'y a pas assez d'hygrométrie à l'intérieur, et la température est trop élevée. Il faut les mettre à 10 degrés à peu près. Si on a une serre non chauffée, welcome, c'est super. Si on a une véranda pas trop chauffé, welcome aussi, et donc c'est très bien.
Qu'est-ce que je mets sur mon balcon alors?
Pour l'hiver?
Ouais.
Alors, il y a plein de plantes à mettre en hiver. Vous avez des graminées, vous avez des roses de Noël qui vont fleurir en plein cœur de l'hiver. Vous avez pas mal de plantes, des euphorbes aussi qui sont intéressantes. Donc vous avez des primevères, des pensées, les bulbeuses également qui vont commencer à fleurir en fin d'hiver, début printemps. Il y a énormément de choses à mettre sur son balcon. Alors si on n'a pas la main verte, on peut commencer par les primevères, les pensées, etc. C'est facile, ça fleurit tout l'hiver et c'est vraiment très très bien et ça coûte pas très cher.
Merci Philippe Collignor. Nathalie Elal, je rappelle que vous êtes chroniqueuse à Histoire Magazine. Vous avez choisi un fruit de saison pour commencer, c'est la châtaigne. Alors, quand même, avant de commencer, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, alerte sur le risque de confusion entre les espèces comestibles et toxiques, entre les marrons d'Inde et les châtaignes. Expliquez-nous un petit peu.
Oui, en effet, parce que, alors là, je vais parler sous contrôle de Philippe Collignon et puis de Justine, c'est que, en effet, ce sont deux espèces totalement différentes, botaniquement parlant. C'est-à-dire, vous avez le châtaignier, la famille des Favacées, je crois, c'est-à-dire qui est apparentée aux chênes et aux hêtres.
Ouais. Châtaignier, c'est castanacé.
Oui, enfin
bon. Voilà, voilà.
C'est bien pour ça que je dis.
Elle a bien fait dire sous contrôle.
Pas de castagne entre vous.
Non,
sûrement. Bon, on sent bien que Philippe Collignon est professeur d'horticulture.
On
sent
bien sous contrôle. Donc sous contrôle.
Alors. Et donc le marron d'Inde. Alors là, c'est les térébintales. C'est bien cela? Maître, la famille des térébintales.
Allez-y, oui.
Les marronniers. Donc ce sont deux arbres différents.
Allez-y, continuez.
C'est le pélo, en fait, de l'horticulture, Philippe Collignon. Et donc, en fait, ces deux espèces sont complètement différentes. Le marron, alors vous le trouvez effectivement dans les cours d'école. Alors nos chères têtes blondes, c'est pas le moment, surtout pas. On ramasse des marrons, tiens maman, va les faire griller. Non, surtout pas, parce que ça, c'est pas comestible, c'est pas du tout le même fruit. Le marron, c'est tout lisse, tout rond. Il y a un seul fruit par bogue, ce qu'on appelle la bogue, c'est-à-dire l'enveloppe hérissée de piquants. Celle de la châtaigne est beaucoup plus présente. D'ailleurs, les piquants sont beaucoup plus longs. Et dans la châtaigne, il y a dans la bogue de la châtaigne, il y a trois fruits. Voilà, donc ça n'a rien à voir, effectivement.
Et elles sont plus petites et plus aplaties et triangulaires par rapport au marron.
Oui, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, je rappelle que quand même, le marron a une utilité parce qu'on peut se servir, je crois, des bogues de marron pour faire une décoction qui va aider à la lessive. Alors là, c'est complètement écolo.
Ça vient d'où, la châtaigne?
Alors, la châtaigne, elle vient plutôt du bassin méditerranéen, mais enfin, bon, elle s'est implantée beaucoup dans le Vivarais d'abord, grâce à des colons romains qui ont greffé des arbres originaires du nord de l'Italie. Et puis ensuite, ce sont des moines, eux aussi italiens, qui ont amené les châtaignes, enfin le châtaignier, dans les Cévennes. Et donc, ils ont fourni aux paysans des plants et des greffons de châtaigniers, moyennant quoi ces derniers devaient payer une sorte de tribut aux abbayes qu'on appelait le censive. Et ça a permis à l'économie locale de se développer pendant des années et des années, de faire vivre des dizaines et des dizaines d'ouvriers, de femmes, d'enfants, et surtout de nourrir la population, parce que avec la châtaigne, on faisait, on fait encore d'ailleurs parfois, du pain. On la réduit en farine, et ça fait un pain, une sorte de pain, parce que dites-vous bien qu'il n'y avait pas toujours du blé, il y avait souvent des pénuries, et qu'il fallait faire du pain avec ce qu'on trouvait, ce qu'on avait sous la main. Donc on mélangeait farine de châtaigne, des fèves, des pois, enfin toutes sortes de choses pour fabriquer le pain. Donc c'était roboratif, nourrissant et salvateur.
Comment la châtaigne, ingrédient de choix dans les plats pauvres, dans les Cévennes notamment, vous le disiez, c'est devenu un mets de luxe avec les marrons glacés.
Oui, alors effectivement, le marron glacé, alors ça c'est apparu plutôt au XVIe siècle, du côté de Lyon, après avoir été probablement inventé dans le Piémont, on n'en est pas certain. En tout cas, on sait que le premier marron glacé est parvenu à la cour du roi Louis XIV, qui en raffolait. Puis il y avait un cuisinier très célèbre à l'époque qui s'appelait François-Pierre, de la Varenne, qui avait même mis dans son ouvrage Le Parfait Confiturier, la recette des premiers marrons glacés. Ça a été copié ensuite par un concurrent qui s'appelait Massialo. Il y avait déjà du plagiat au XVIIe siècle, du plagiat dans les livres de cuisine. Et puis donc, c'est devenu vraiment associé à la région du Lyonnais, du Vivarais et de Limoges, qui ont servi de matière première à la friandise dans un premier temps, parce qu'après c'est devenu l'Ardèche, bien évidemment, qui est la patrie de cœur, on le sait, de notre ami Guillemette. Donc évidemment, les marrons glacés étaient un luxe absolu.
Petite précision, quand on parle de marrons glacés, il s'agit en fait de grosses châtaignes.
Évidemment, la châtaigne, parce qu'on rappelle que le marron n'est pas du tout...
Ça prête à confusion.
Absolument, mais c'est peut-être plus commercial, en tout cas c'est resté commercialement cette appellation. Et donc voilà.
Et c'est possible de les glacer soi-même ou c'est absolument impossible?
Ah mais c'est un enfer sur terre. Alors moi j'ai essayé une fois parce que
Pourquoi c'est difficile?
Mais parce que c'est des tas d'étapes en fait, c'est des sirops de sucre. Il faut faire des bains de sucre et des bains de sirop de sucre. Il faut le thermomètre à sucre qu'on appelle le pesirop, etc. Et c'est en fait plein d'étapes compliquées. Puis on arrive surtout à une espèce de ragougnasse de marron. Alors qu'on a vu les plus grands artisans qui ont fait des trucs magnifiques. Alors vous êtes là dans votre cuisine à avoir un truc complètement défait, friable. Vous le récupérez, faites quand même un cake avec, je vous rassure, tout va bien. Mais c'est pas jouable.
Alors Nathalie Hélal, vous n'arriverez jamais à me faire manger de la crème de marron.
C'est vrai, j'en suis vraiment navrée, Ali, j'ai appris ça.
C'est très populaire,
c'est une
tristesse.
Cas.
Ça vient d'où la crème de marron?
Alors ça vient plutôt d'un inventeur extraordinaire qui s'appelait Clément Faugier, qui a mis au point en 1882 une méthode de production des marrons glacés, et puis qui ensuite a récupéré ces miettes, ces brisures de marrons glacés. Je vous expliquais tout à l'heure le rebut après les recettes ratées. Et donc, il a fait le recyclage génial du marron glacé en fabriquant sa fameuse crème de marron de l'Ardèche qu'on trouve toujours. Le tube est absolument culte, la boîte aussi. On trouve ça et c'est merveilleux.
La boîte de conserve,
alors,
mon Dieu.
Rares sont les restaurants, cantines et autres qui ne vous proposent pas le petit fromage blanc. Je crois même qu'à la cantine de Radio France, on en trouve. J'ai des souvenirs comme ça qui me reviennent. On trouve le fromage blanc de base avec la petite crème de marron qui va bien, qui permet d'éviter la confiture ou le sucre. Donc ça, c'est un produit merveilleux, basique, formidable, qui dépanne toutes les ménagères en mal d'inspiration.
Votre tour de main pour réussir le mythique Mont Blanc?
Ah, moi, je sais pas faire le Mont Blanc, je vais le manger.
Ah, vous le mangez, d'accord.
Ah, non,
okay.
Non, mais il y a des choses comme ça, je ne m'y risque pas, je suis une petite joueuse. Je suis une grosse mangeuse, mais une petite joueuse.
Alors, en revanche, vous l'utilisez comment, la châtaigne en cuisine?
Moi, en fait, j'utilise pas la châtaigne, à part à Noël, parce que là, je suis très tradique. Voilà, j'aime beaucoup manger des châtaignes, accompagnant ma dinde ou mon noix ou ce que vous voulez. Et c'est vrai que ça marche très bien. Maintenant, il y a une recette assez jolie, où on peut, je crois, mettre une sorte de poulet en cocotte avec de la châtaigne, et ça c'est pas mal, faut un peu de la refumer, tout ça, j'aime beaucoup, mais c'est basique, ça reste basique.
Oui, mais là aussi, à Noël, pour réussir de bons marrons, enfin, on dit la dinde au marron, hein, mais bon, de bonnes châtaignes, de qu'elles soient ni trop sèches, ni trop molles, quand même suffisamment beurrées, et, mais c'est, là aussi, c'est compliqué en fait,
oui,
de passer
cuisson.
Ces trucs à la casserole, c'est compliqué.
Déjà, ce qui est embêtant, faut bien le dire, c'est la cuisson, parce qu'il faut que ça cuise au moins 30-40 minutes, faut les inciser avant, une par une. Ensuite, il faut enlever cette écorce dure. Et puis ensuite, il faut bien les cuire. Non, c'est assez compliqué.
Vous pouvez poser à nos experts toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Tout réveille au goût amer. Était-ce un cauchemar? Oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit ou par les pleurs. Trahisé au mauvais rêve, j'aurais bien aimé. Mais non, c'était bien hier. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? T'es mon comme ça qui me font pleurer, leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer, dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. Pleurer. Le vent c'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres, et je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer, leur vérité me tue. Me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer.
Angèle interpréter Les Matins.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h39 et je vous propose ce matin une émission consacrée à la maison et aux loisirs. Question de Claire pour Philippe Collignon. Comment on reconnaît un châtaignier et un marronnier?
Alors, c'est pas du tout la même espèce. Le châtaignier est plutôt une feuille allongée, légèrement dentée, tandis que le marronnier, c'est une feuille palmée. Vous prenez votre main et vous avez les folioles que l'on peut détacher séparément. Voilà.
Alors, je rappelle que selon l'ANSES, hein, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, les marrons d'Inde sont toxiques et peuvent entraîner des troubles digestifs, comme des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements ou des irritations de la gorge. Donc, c'est important quand même de bien faire la différence. On rappelle quand même la différence dans les bogues. Donc, les bogues de marrons, il y a un seul fruit, et dans les bogues de châtaignes,
oui, surtout les bogues de châtaignes sont très épineuses, avec des grandes épines, et il y a plusieurs parties.
Et en général, il n'y en a pas dans les cours d'école, surtout.
Exactement.
Et il y a à Bruges des trésors, mais alors là, c'est une joie de se promener. De se promener à pied. Alors ça, je donne rarement des conseils, mais là, vraiment. Vraiment, prendre sa voiture à Bruges, c'est idiot. D'abord parce qu'il y a un système de sens interdit qui a été fait exprès par la municipalité pour décourager les gens en voiture. C'est-à-dire que vous prenez votre voiture, vous mettez plus longtemps qu'à pied. Parce que vous êtes obligé de faire plein de tours, de détours, et puis il y a une grande partie qui est piétonne. Là-bas, c'est plat, hein, donc vous pouvez vous déplacer à vélo, sauf dans les parties piétonnières. Mais à pied, c'est aussi bien. Et puis bien sûr, sur les canaux, sur les bateaux qui se baladent à travers cette ville superbe.
Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre la voix de Claude Villers dont je vous écris du plus lointain de mes rêves en 2002. Sandrine Mercier du magazine Voyageurs AR, vous aimez Bruges comme Claude Villers?
C'est vrai que j'aime Bruges et surtout à l'arrière-saison comme ça, parce que pendant l'été, il y a quand même beaucoup de monde avec les croisiéristes qui arrivent sur Zeebruges et qui viennent se déverser pendant juste quelques heures. Mais là, pour le coup, vraiment, ne restez pas seulement 3 heures en repartant avec votre boîte de chocolat sous le bras. Il faut vraiment y rester plus souvent.
Mais qu'est-ce qu'on mange à Bruges, Sandrine?
Après, attendez Nathalie, calmez-vous. D'abord, on va dans des musées d'abord.
On va d'abord visiter le Béguinage, forcément, le lac Amour. C'est joli aussi le lac Amour, les canaux, la grande place avec son beffroi. Alors c'est vraiment un décor. Enfin, Bruges, c'est vraiment le décor romantique par excellence. Quoi. C'est les canaux, les petits ponts, les vieilles bâtisses. On se croirait vraiment dans un joli décor, dans un joli musée. Mais il faut vraiment rester au moins une nuit, ne pas faire que l'aller-retour, parce que c'est vraiment le soir et le matin que Bruges révèle. C'est vraiment au calme. À ce moment-là, c'est au calme, comme disent les jeunes aujourd'hui. Et là, c'est vraiment très, très, très beau de se balader, de errer, de sentir tous ces parfums. Donc, il faut vraiment prendre le temps de visiter et d'y rester au moins un week-end. Et surtout, là, il parlait de marcher à pied, mais on peut prendre aussi son vélo. Et de Bruges, on peut aller jusqu'à Dames. C'est à 7 km. Il y a toute une piste cyclable. Et là, on traverse des paysages de moulins, de canaux. On longe des canaux. Et là, on est vraiment dans la campagne. Donc, sur un week-end, on peut se faire et le côté musée. Là, ça vaut quand même
quel
le coup.
Musée, par exemple?
Alors, il y a le Groningue, je pense qu'on prononce comme ça. C'est tout les primitifs flamands du 15e, du 16e. Il y a du Van Eyck, du Memling. Il y a même un Jérôme Bosch, qui est le jugement dernier. Celui qui vous donne envie d'être sage toute votre vie, hein, parce que c'est pour vraiment échapper au monstre de l'enfer. Donc il y a toute cette grande avancée dans la peinture à l'huile. Il y a le Gruthus aussi, qui vient de rouvrir après 5 ans de rénovation. Là, c'est vraiment un palais incroyable où on découvre toute l'histoire de la ville de Bruges. Donc, ça, c'est vraiment passionnant.
Mais qu'est-ce qu'on mange?
Alors, qu'est-ce qu'on mange? Alors,
moi, où est-ce qu'on mange?
Il y a une super adresse, c'est le bistrot Brut, dans une maison du 17e. C'est Bruno Timperman, c'est un chef qui aime vraiment son terroir, les saisons, la nature, les petites fleurs, les surprises. Et vous mangez vraiment, c'est délicieux. Il y a quoi? Le bon Kramik? Non, ça vous parle?
Ouais. Kramik belge, évidemment.
Kramik belge, c'est quoi?
À Bruges, bah, c'est une bonne brioche. Une sorte de brioche avec des raisins secs, mais c'est très, très, très moelleux.
Pas du tout calorique, au passage. Pas du tout, du tout.
Guillemette Odissino, vous aimez bien Bruges, hein?
Ah oui, j'aime beaucoup et je trouve qu'il y a une atmosphère. Vous avez raison, que ce soit au petit matin ou la nuit. En fait, il y a une atmosphère quasi fantastique. Il y a quelque chose qui traîne dans ces rues. On a l'impression que presque un peu de temps en temps qu'on est suivi. Non mais il y a quelque chose de aussi une très belle étrangeté, une étrangeté différente de d'autres villes de canaux comme Venise et tout. Il y a vraiment quelque chose de, c'est, je sais pas, la 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 le canal diffuse autre chose que les autres canaux.
Et il y a aussi quelque chose de nouveau. Ils ont créé une brochure qui s'appelle Handmed in Bruges. Vous l'avez sur Internet aussi. Et là, on trouve toutes des boutiques qui ont cette marque, donc Handmed in Bruges. Et on rencontre des gens absolument fascinants. Il y a des fabricants de planches de surf, par exemple, à Bruges. Il n'y a pas que des fabricants de chocolat.
Ils vont surfer sur le canal.
Ils vont surfer sur la mer du Nord, quand même, à côté. Mais il est venu fabriquer ses planches ici. Il y a Karl aussi, qui est un fabricant de saxophones. Et ça s'appelle Alex Sax et compagnie. Donc, il fabrique des saxophones. Et lui, il a même décidé, en même temps, de récupérer des obus pour fabriquer 193 saxophones. Il devrait aussi pour la paix. Et donc, on a tout un parcours comme ça dans la ville où on peut aller rencontrer ces artisans de la marque Handmade in Bruges. Donc, ça permet vraiment de faire des rencontres complètement insolites.
Week-end à Bruges, recommandé par Sandrine Mercier, Nathalie Elal. J'aimerais qu'on évoque un fruit de saison, la poire.
Que vous adorez pour le coup.
Oui, hein. Ça pour le coup, oui. Hein. D'où vient la poire?
Alors, la poire, c'est plutôt originaire du Moyen-Orient, mais aussi du Cachemire, donc de l'Inde. Mais bon, ça a poussé, il faut le dire, spontanément, à peu près dans toutes les zones tempérées d'Europe ou dans toute l'Asie occidentale et centrale. Et c'est vrai que c'est grâce à l'Empire romain, là encore, qu'on a pu avoir plein de variétés. Même si au Moyen-Âge, il y en avait qu'une dizaine. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 variétés de poires, mais sur les marchés, vous en trouvez que 5-6.
Il y a la Guyot.
La Guyot, la doyennée du Comis, la Louise Bonne, la Beurréhardie, la William, la Conférence.
La Pascrassane.
La Pascrassane. Un peu granuleuse quand même, cette chair de la Pascrassane. C'est pas territoire. Moi, personnellement.
J'aime bien le nom, plus que le effectivement.
Oui,
la variété.
Louise Bonne, c'est improbable aussi comme nom, la Beurréhardie.
Comment la choisir?
Alors, comment la choisir? Il faut surtout savoir une chose, la poire, si elle est trop mûre, ça devient toxique. Donc, tous les fruits qui ont des coups, qui ont pris un choc, ça vous jetez impitoyablement, parce qu'il y a un poison dedans qu'on appelle la patuline. Ça vous donne des nausées, ça provoque des maladies, du foie, des reins, etc. Donc, vous jetez, vous la cuisez.
Patuline.
Oui, la patuline que contient la poire. Donc, surtout, vous la jetez, vous n'essayez même pas de faire une compote ou de la récupérer. Mmh. Rien à faire.
Comment vous la cuisinez, la poire?
Alors, moi,
est-ce que je peux demander d'abord comment on réussit à les acheter pas farineuses?
Ah oui.
En faisant confiance à son
marchand.
Parce
que ça, c'est vraiment c'est une telle déception.
Oui.
Quand elles sont tellement belles à l'extérieur et qu'on mord dedans.
C'est vrai.
Et qu'en fait, c'est atrocement farineux.
C'est un peu comme un avocat, en fait. Hein. Il vaut mieux les acheter chez son fruitier qu'en grande surface. En grande surface, ils sont noirs tout le temps.
Il y a des fruits comme ça, ou des légumes où il y a un suspense intolérable avant de mordre dedans.
Dans les grandes surfaces, ils sont souvent tâtés par tout le monde. Donc, au final, c'est pas bon.
Une chose, vous repérez souvent des poires de très bonne qualité, mais aussi, il faut bien le dire, malheureusement, beaucoup plus chères. Quand elles ont une sorte de petit cachet de cire à l'extrémité de la queue. Et là, vous savez que vous êtes dans un produit de qualité, de très belle qualité.
Une recette à réaliser ce week-end?
Alors, mon petit gâteau poire et caramel que je vous ai confectionné, mon cher Ali. Alors, très très simple. Vous avez 150 g de beurre, 150 g de farine, à peu près 90 g de sucre, un demi-sachet de levure, de la vanille en grain, des poires conférences et deux œufs. Et vous mélangez, en fait, c'est très simple. La pâte est tout à fait simple à faire avec du beurre fondu, de la farine, du sucre, les œufs, vous battez le tout, vous ajoutez la levure, la vanille, mais vous faites surtout un petit caramel dans un fond de moule et vous disposez vos poires épluchées en rosace. C'est pas exactement la même recette que je vous ai faite aujourd'hui, mais ça ressemble, c'est plus rapide encore. Et vous versez par-dessus la pâte et vous allez avoir une sorte de tatin, de gâteau tatin de poire quand ça va se retourner. C'est absolument merveilleux. Là, j'ai fait un truc encore plus simple, mais aussi caramélisé. Je pense que vous allez aimer.
Vous nous enverrez la recette, on la mettra sur la page
avec
Facebook
plaisir.
De l'émission. Beaucoup d'expressions avec le mot poire. Bon, si je vous dis que vous êtes une bonne poire...
Non, je vais pas, non.
Être une bonne poire, une poire pour la soif, entre la poire et le fromage.
Alors, entre la poire et le fromage, ça c'est très très marrant, parce qu'en fait, à une époque, on utilisait les poires pour se rincer la bouche en quelque sorte avant de consommer du fromage. C'était un petit peu le trou normand de l'époque, parce que les légumes n'étaient pas courants et la poire servait de légume et de rafraîchissement avant le fromage qui concluait le repas. Sinon, une autre expression que j'adore, la poire d'angoisse avalée, une poire d'angoisse, c'est un peu flippant, hein, comme ça, dit comme ça, mais c'est vrai que c'est flippant, parce qu'au Moyen-Âge, vous le savez, malheureusement, la pratique de la torture était monnaie courante, et donc, pour ne pas entendre les hurlements de leurs victimes, les tortionnaires, les baïonnaient en leur faisant avaler une sorte de poire. Si, une sorte de poire d'angoisse, évidemment, c'était pas le fruit, mais enfin, quelque chose en forme de poire qui étouffait leurs cris. C'est sordide, je termine sur une note.
Voilà, voilà, merci beaucoup Nathalie Hélal d'être passée ce vendredi. Voilà, ça nous met bien la pêche là, vos histoires. Avec nous ce matin, Justine Janin. Bonjour, rebonjour. Vous êtes passionnée par les plantes d'intérieur et vous publiez chez Ulmer Green Addiction, la jungle à la maison. Comment est née votre passion dévorante pour les plantes d'intérieur? Je crois que ça a commencé dans votre campagne bourguignonne, grâce à votre grand-mère.
C'est ça. Ma grand-mère, en fait, est passionnée par la nature en général et surtout les plantes. Et donc, ça a commencé très tôt. J'en ai toujours eu chez moi. Et puis, bon, en Bourgogne, on est quand même en plein milieu de la nature. Donc, la plante d'intérieur, c'est sympa, mais c'est pas ce qui me faisait non plus vibrer à la base. C'est plutôt en allant en ville plus tard où, là, j'ai commencé à manquer un peu de verdure et donc à m'approprier ma propre petite jungle à la maison pour pouvoir avoir ce côté un petit peu vert. Donc, on associe ça aussi à la déco aussi, beaucoup aujourd'hui. Mais
c'est un élément de décoration fondamental.
Oui, alors faut pas oublier que c'est du vivant, hein, donc c'est pas juste de la déco, je pense qu'on est d'accord là-dessus.
Oui, il faut pas choisir la plante parce qu'elle est graphique, parce qu'elle a des feuilles rouges ou vertes, etc.
Exactement.
Il faut la choisir par amour, près d'une fenêtre, et il faut l'entretenir et l'aimer. Si c'est pour en faire un élément déco, vous êtes sûr qu'au bout de 3 mois,
ça ne passera pas du tout. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, dans Green Addiction, on explique tout ça. C'est qu'une plante, on la choisit pas juste par coup de cœur. Il faut être capable, en fait, d'avoir la bonne luminosité, enfin, de pouvoir lui prodiguer les bons soins.
Vous y croyez, vous, à ces histoires de main verte?
Mais pas vraiment. En fait, la main verte, on n'est pas avec, hein, je pense. C'est de l'apprentissage, c'est de l'attention, c'est beaucoup de choses. Je pense qu'on peut avoir un terrain propice à la base, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on a.
Vous militez pour que chacun puisse avoir un coin de verdure à la maison, même dans un studio, dans un petit intérieur.
Oui, c'est tout à fait possible. Donc si on prend bien sûr en compte les besoins de sa plante, chaque intérieur peut avoir son petit coin de verdure. On peut tous avoir une plante à la maison.
Alors il faut faire attention à une chose toute simple, c'est l'exposition. Avantage et exposition des expositions, avantage et inconvénient des expositions nord, sud, est, ouest, sud, pouvez-vous nous expliquer en quelques
fait,
mots?
En fait, on a toujours un choix en fait sur les plantes. Si vous avez un appartement qui n'est pas trop éclairé par exemple, on privilégie toujours près d'une fenêtre hein, de toute façon, mais on va pouvoir avoir des plantes adaptées. Les calathéas par exemple qui ont un feuillage très graphique, très coloré, ça va être une plante qui va être facile à avoir en intérieur, surtout quand on a peu de luminosité. Les marantas aussi qui sont très proches. Par contre, là, ce qui est pas mal, c'est que dès que vous avez un peu plus de lumière, là, le choix va être très varié. Moi, j'ai un faible pour les aracées, qui poussent très bien en intérieur chez nous. Donc, il faut respecter, pareil, quelques petites conditions. Surtout l'humidité, hein, qui est très importante. L'hygrométrie, on l'oublie souvent en intérieur, mais c'est un point fondamental. Et donc, sur les expositions, on va pouvoir jouer comme ça. Chaque endroit va avoir une plante adaptée.
Quelle est l'exposition idéale pour vous?
L'exposition idéale, tout dépend en fait de ce que vous recherchez comme collection. Si vous êtes à l'Est par exemple, c'est quand même le top du top parce que vous allez pouvoir adapter un petit peu votre choix de plantes. Plus vous allez être proche de la fenêtre, donc plus vous allez avoir des plantes qui ont un côté lumineux. Donc là, on va avoir une petite sélection à faire, mais on peut aussi s'écarter un petit peu et avoir des plantes qui, là, auront besoin de moins de lumière. Il faut penser aussi à la nature. Par exemple, les plantes tropicales, on en a certaines qui vont pousser en base d'arbres. Donc là, c'est des plantes qui auront besoin de moins de lumière. Tout ce qui va être un peu épiphyte, qui va pouvoir monter sur les autres végétaux, là, auront besoin d'un peu plus de lumière. Donc on va pouvoir adapter tout ça.
Et quels sont les signes d'une lumière inadaptée?
Alors souvent, on a des feuilles qui vont ramollir, qui vont jaunir. On va avoir des boutons qui vont avorter aussi, hein, souvent. Des feuilles qui peuvent tomber sans explication. Souvent, c'est des signes de peu de luminosité.
Il vaut mieux avoir la main légère sur l'arrosage.
Exactement.
Que la main lourde. C'est souvent
pourquoi
ce qui fait. Parce qu'on projette nos desiderata, ouais, d'être humain sur une plante. On se dit, elle a soif, elle a faim, elle a envie de manger, elle a envie de... Si, en fait, c'est une erreur totale. Il faut, voilà, toucher avec le doigt la terre. Ne faisons pas confiance aux petits indicateurs là de réserve d'eau. Moi, je bannis déjà les pots à réserve d'eau.
On est d'accord.
Au revoir. Je bannis les pots en plastique. Au revoir. Le bon pot en terre cuite. Formidable. Et puis, vous allez tremper un peu vos doigts dans la terre.
Exactement.
Ça fait du bien de mettre ses doigts dans la terre. Et puis, vous allez voir la fraîcheur de la terre. Moi, je préfère un dessèchement entre chaque arrosage. C'est-à-dire, vous arrosez, vous laissez un peu sécher la terre et vous réarrosez. Là, vous faites pas d'erreur. En revanche, si vous mettez de l'eau tout le temps, régulièrement, et surtout si c'est un pot en plastique, là, il y a un problème.
Justine Janin, comment nourrit-on une plante d'intérieur? Quels sont les grands principes de la nutrition de ces plantes?
Donc, comme on disait, l'arrosage, il est vraiment très important. On va pas surarroser une plante. Vaut mieux un petit moment de sécheresse, déjà, que trop l'arroser. Souvent, c'est l'erreur du jardinier débutant. On a envie d'y aller, de l'arroser un peu tous les jours. En fait, laissez-la tranquille un petit peu. Et on apprend aussi à voir les signes pour la nourrir. Donc, du coup, l'arrosage, c'est ce que disait Philippe il y a quelques minutes, il faut absolument toucher la terre. Regardez, même votre portefeuille va être différent. Avec le pot en terre cuite, on a aussi une chose, c'est quand vous l'arrosez, le pot est plus foncé. Au fur et à mesure du temps, quand ça absorbe, le pot devient un peu plus clair. Il y a plein de petites indications comme ça. Après, on a des apports d'engrais à faire régulièrement. On arrête l'hiver, mais au beau jour, on continue quand même de lui donner à manger. Parce qu'elle est dans un petit pot, il ne faut pas oublier que les nutriments vont passer avec le temps. Donc on ne zappe pas aussi la petite phase.
Oui, pour faire un surfaçage, c'est-à-dire vous enlevez régulièrement 5-6 cm de terreau, vous mettez de la bonne terre à la place du bon terreau, et puis voilà, vous faites ça deux fois par an, c'est pas mal.
Pourquoi le rempotage, c'est une opération indispensable?
Déjà,
bon développement d'une plante.
Déjà, en fait, votre plante, elle est dans un petit pot. Avec la croissance, le système racinaire va avoir besoin de plus de place. Donc forcément, on va prendre un pot un peu plus grand. On va aussi rapporter un nouveau terreau plus frais avec d'autres nutriments. Donc ça, c'est une phase qui est indispensable.
Quels sont les bons gestes quand on rempote ?
Alors, les bons gestes, c'est déjà de choisir le bon pot. Souvent, on fait une erreur, c'est que on va trouver en magasin de déco un joli cache-pot. Alors, le cache-pot, c'est un cache-pot. On ne rempote pas une plante directement dedans. Ça arrive très souvent. Moi, j'ai des clients qui arrivent en boutique et qui nous montrent, en fait, leur plante, elle va pas bien. Ben, forcément, en fait, la plante a été posée là, comme ça, sans drainage, avec un terreau qui n'est pas forcément adapté. Et là, c'est un gage sûr d'une mort très proche pour votre plante.
Votre plante d'intérieur préférée, Justine Janin ?
Alors, donner une plante préférée, c'est très très difficile. On a des plantes qui vont être plutôt faciles. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui est aracée. Le Monstera, c'est une plante qui est assez simple à garder à la maison. Quand on débute, c'est le top. Et on a quelque chose de très graphique aussi.
Guillemette Odessino.
Juste une phrase qui veut tout dire. J'ai deux chats.
J'allais poser exactement la même question. Véridique. Véridique.
Hein, alors, comment fait-on pour faire survivre nos plantes en intérieur?
Pareil. Ça peut très bien se passer. Alors, c'est un défi un petit peu au départ, hein, les plantes et les chats. On fait surtout attention à une chose, c'est certaines plantes sont toxiques. Donc on fait toujours attention, on garde toujours un œil. Si vous avez une plante toxique, mettez-la en hauteur. Faites en sorte que votre chat n'y ait pas accès. Parce qu'on a souvent des drames.
Ça grimpe un chat. Hein.
Ça grimpe. Alors ça dépend. Moi, les miens, je les ai lestés. Du coup, ils ne grimpent pas.
Plaisante, évidemment.
Non.
Voilà, dernier conseil.
Dernier conseil, c'est penser à avoir toujours un petit papyrus ou une herbe à chat à proximité. Mmh. Parce qu'en fait, ça va les détourner. Oui, ouais. Naturellement, ils ont envie de manger des végétaux.
Alors, il fera moche, hein, j'allais dire il fera chaud, c'est un fantasme, il fera moche ce week-end dans une grande partie du pays. Et vous nous conseillez, Guillemette Odessino, un film qui fait du bien et d'actualité, puisqu'on parle de jardin.
Absolument, oui, je me suis dit que quand même, après avoir fait un cake aux poires, après avoir replanté ses plantes, après avoir viré ses chats, il va quand même falloir se mettre sous la couette, éventuellement même avec ses enfants sur le canapé et tout. Alors en fait, je vous conseille un film des années 90, mais qui est vraiment merveilleux. Qui reste tout aussi tendre et touchant, c'est Le Jardin Secret d'Agnieszka Holland. Alors c'est une adaptation
avec
Maggie Smith et plein de petits enfants quand même. C'est l'histoire de Marie, une orpheline. Elle est confiée à son oncle dans une grande propriété d'une tristesse inouïe. Sauf que au bout de cette propriété, il y a, comme son nom l'indique, un jardin secret. Elle en trouve la clé. Elle pousse un portail et là, des points de suspension.
Regardez le film.
Et elle va se créer, elle va refaire vivre ce jardin et créer cet endroit magique. C'est parfait avec le cake aux poires.
Le Jardin Secret d'Agnieszka Holland à regarder tranquillement ce week-end. Merci Justine Janin, Green Addiction, La Jungle à la Maison, c'est publié chez Ulmer. Merci Philippe Collignon. On peut lire Simplissime, le livre de jardinage le plus facile du monde. Nathalie Elal, on peut retrouver votre chronique dans Histoire Magazine. Sandrine, merci, on peut retrouver en kiosque votre revue AR. Merci à la programmation musicale de Muriel Pérez et aux standardistes de France Inter. Lundi, mangez-vous encore de la viande? Pour quelles raisons mangez-vous moins ou plus du tout d'entrecôte ou de jambon? Pour des raisons nutritionnelles, éthiques ou liées au bien-être animal? Continuez-vous à déguster avec plaisir et sans culpabilité de la viande? Vous nous dites tout lundi au 01 45 24 7000. À suivre, Nagui et sa bande originale.